Alors, mon séminaire est beaucoup plus jeune. C'est un bambin par rapport à celui qui se tient ici. Il n'a que 10 ans. Donc, c'est la 11e, enfin, 10 ans et demi. C'est pour ça que j'ai hésité entre 10 et 11 ans. Il a commencé très exactement le 10 janvier 2003. Et il se tient, comme on l'a dit, à l'école des hautes études en sciences sociales. Je précise que ce séminaire est essentiellement un séminaire d'histoire économique et sociale sur une longue période, 17e, 20e siècle. Vous remarquerez d'ailleurs, pour commencer, que la période que j'ai choisie est une période qui ne tient aucun compte des découpages académiques classiques, puisque c'est l'histoire moderne et contemporaine. Pour moi, cette coupure n'a aucun sens. Et je ne comprends pas très bien pourquoi il y aurait une histoire rurale moderne et une histoire rurale contemporaine. Je ne vois pas comment ça peut se justifier. De la même façon, j'estime toujours que je suis, moi, personnellement, beaucoup plus à même d'encadrer, par exemple, une recherche en histoire des campagnes au 19e siècle ou au 20e siècle, plutôt qu'en histoire religieuse du 17e ou 18e siècle. Ce n'est pas parce que je suis moderniste que je suis omniscient sur l'histoire moderne. Et inversement, les problèmes de la ruralité m'intéressent, quelles que soient les périodes, et même nous débordons largement ces périodes, puisque bien souvent nous faisons appel à des médiévistes qui peuvent facilement dialoguer avec nous. Alors monter un séminaire d'histoire rurale à Paris n'était pas une entreprise simple, et attirer des étudiants sur ce créneau à Paris et sur de l'histoire économique, qui elle non plus ne va pas très bien, n'était pas quelque chose de facile. Je ne vais pas expliquer les raisons pour lesquelles l'histoire rurale, l'histoire économique ont quand même pas mal de difficultés à s'afficher dans le paysage académique. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Je ne vais pas recommencer, ce sera un autre exposé. Mais il est évident que l'histoire rurale n'est pas une priorité pour les chercheurs ou les enseignants-chercheurs et qu'il n'est pas évident que l'histoire rurale ait forcément une place dans un centre de recherche, y compris dans mon propre centre de recherche. Le séminaire a démarré sans étudiants, et aujourd'hui ça a changé, heureusement. Il accueille régulièrement, c'est fait un peu pour ça, des étudiants qui sont en cours de thèse, les miens, ou d'autres, puisque c'est un séminaire totalement ouvert. Il accueille aussi, au moins autant, des chercheurs, et donc c'est un lieu plutôt de débat, de réflexion, de rencontre, dans lequel cohabitent et dialoguent thésards, chercheurs chevronnés, chercheurs retraités, etc., etc. Je dirige un certain nombre d'étudiants. Ils sont 5 actuellement. J'ai 5 thèses en cours. J'en ai parallèlement amené 2 à la thèse depuis ces 10 ans. Tous ont eu la mention très honorable et la félicitation. Les 2 premiers ont un poste, notamment le 2e vient d'être recruté par CNRS et j'en suis, ma foi, fort heureux et fort fier. Le dernier vient de soutenir sa thèse il y a quelques mois, et évidemment il guette les postes, donc effectivement c'est un de mes sujets de préoccupation, et les suivants seront également des sujets de préoccupation dans les années qui viennent. Ce séminaire, dès le début, a affiché une priorité, c'est l'ouverture internationale et surtout l'ouverture européenne. Alors ça tient à plusieurs facteurs. D'abord à mes propres exigences, mais ça, c'est quand même ce qui pèse le moins lourd. Ça tient un peu aux injonctions du CNRS. Je suis CNRS, ne l'oubliez pas. Mais je suis aussi, on ne l'a pas dit, j'ai 2 casquettes, je suis aussi directeur d'études à l'école. Et donc je dois aussi m'acclimater dans un environnement scientifique très particulier où l'ouverture internationale est une priorité. Et la chance que j'ai, c'est que l'école offre de grandes facilités justement pour promouvoir ce type de coopération internationale. Alors, je vais procéder en 3 temps. Je vais d'abord expliquer comment mon séminaire s'articule sur des projets de recherche, s'articule sur des projets de recherche successifs. Je vais expliquer, ce qui n'est pas très logique, mais je crois que ça m'aide. Pourquoi cette articulation sur des projets de recherche internationaux est devenue une priorité? Et puis, alors, je ne vais pas vous présenter les 139 exposés. Ça serait peut-être un peu long et un peu fastidieux. Je vais essayer de vous dégager quelques tendances lourdes de ces séminaires et quelques thématiques sur lesquelles nous avons particulièrement travaillé. Donc d'abord, le comment. Comment on peut développer un séminaire qui soit profondément ancré sur des projets de recherche. Je l'ai dit, la création de l'association et de la revue Histoire et Histoire Rurale a certainement sauvé l'histoire rurale d'un anéantissement programmé. À l'école des études, les lieux de réflexion, et ailleurs aussi, ont fondu comme neige au soleil. Et à l'école, il y a 10 ans, il ne restait que 2 lieux possibles pour les étudiants qui voulaient faire de l'histoire des campagnes. C'était le séminaire de Joseph Goire, qui était un séminaire transmission, reproduction sociale, etc. Et puis le séminaire de Maurice Aymard, qui était un séminaire d'histoire économique un peu dur sur l'histoire économique des campagnes. Alors, c'est dans ce contexte que j'ai créé, avec Joseph Goire, au sein du Centre de recherche historique, un nouveau groupe qui s'appelle Erimor, dont on a déjà parlé. Erimor, équipe de recherche pour l'histoire du monde rural, qui était en lien, en symbiose totale avec le séminaire. Alors Erimor était lui-même le fruit d'une alliance entre Joseph Goire, son groupe, et un petit groupe qui était autour de moi et qui travaillait sur ces questions. Mais l'avantage de ce regroupement, ça permettait d'abord de répondre aux lubies de regroupement à marche forcée du CNRS et aussi d'obtenir une masse critique de chercheurs, puisque j'avais des chercheurs qui travaillaient avec moi, mais ils n'étaient pas CRH. Alors que Joseph Goire, lui, il avait des chercheurs, mais qui étaient CRH. Donc ça permettait de construire une équipe qui avait un noyau interne. Ce sont pour des raisons de politique scientifique que ce regroupement s'est fait. Le problème qui s'est posé, c'est que cette équipe a vieilli, notamment l'équipe de Joseph Goire. Et il y a 1 an et demi, je me suis retrouvé quasiment seul en activité sur ce segment, à l'école et aux études et au CRH. Donc, il a fallu remonter un groupe rapidement. Et aujourd'hui, donc, Erimor, c'est 16 personnes, en gros, pour simplifier. Mais c'est surtout 7 personnes statutaires, en activité, à l'intérieur du CRH, ce qui en fait quand même une équipe relativement importante pour un thème de ce genre. Erimor a constitué d'une certaine façon ce que j'appellerais le bras armé du séminaire, le centre d'impulsion scientifique pour les 2 séminaires qui ont fonctionné en alternance, c'est-à-dire celui du Histoire économique des campagnes, le mien, et puis le séminaire Anthropologie historique de l'Europe, qui lui s'intéresse plutôt aux problèmes famille et transmission. Et ces séminaires ont donc servi de caisse de résonance pour des programmes que nous avons commencé à obtenir à partir de 2005. Alors, on avait d'abord des liens avec le CORN, il est abîmé, hein. C'est CORN, Comparative Rural History of the North Sea Era. C'est un groupe de recherche flamand qui est dirigé par Eric Thun, à Gand, et qui est né bien avant, en 1994, donc la même année que HSR, avec l'idée de fédérer sur des projets de recherche communs les pays riverains de la mer du Nord, avec une hypothèse de base sur laquelle je vais revenir, c'est que les rives de la mer du Nord étaient l'épicentre de tous les progrès agricoles et toutes les autres zones n'avaient fait qu'imiter de manière difficile l'exemple qui venait des rives de la mer du Nord. Dans ce groupe CORN, la France n'avait qu'un strapontin, puisque la mer du Nord, c'est le département du Nord et du Pas-de-Calais. Et Jean-Marc et moi, nous étions à cette première rencontre qui a eu lieu à Lille en 1994, et on s'est rendu compte qu'on était relativement marginaux et pas vraiment une priorité pour le CORN. Les Lillois, c'était l'antenne française. Ils ont rapidement déserté le groupe et, comme ils avaient besoin d'interlocuteurs français, la mer du Nord a annexé le bassin parisien. Et donc, je me suis retrouvé seul représentant français avec un autre collègue de l'INRA, Jean-Michel Chevet. Et donc, c'est ainsi qu'Erimor est devenu l'antenne française du CORN, un peu par hasard, et en lien avec ce groupe qui est très Europe du Nord-Ouest. Alors, nous avons participé à toutes sortes de folies, notamment au volume que Erimor a publié, que le CORN a publié, puis une collection qui vient de sortir sur Rural Economy and Society of Northwestern Europe, de 500 à 2000. 3 volumes sont déjà parus, et nous avons participé, certains d'entre nous, à la mise en œuvre de ce volume collectif qui essaye de faire le point sur l'histoire économique et sociale de l'Europe du Nord-Ouest. En réalité, dès le départ, dans ce CORN, je ne me suis pas senti parfaitement à l'aise, puisque c'était un réseau qui marchait très bien, et je m'en suis d'ailleurs beaucoup inspiré. Je les ai observés, comment ils faisaient, service d'espionnage. Mais l'hypothèse de base ne me satisfaisait absolument pas du tout. Et j'avoue que j'avais plus d'ironie que d'adhésion lorsqu'on m'expliquait que tous les progrès venaient d'une toute petite zone, l'Est de l'Angleterre et la Flandre et la Hollande, et que le reste était complètement attardé. Alors qu'en était-il de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie? Est-ce qu'ils étaient vraiment si arriérés que cela? Quel sens ça avait d'isoler une partie de l'Europe? C'est ça la question que je me suis posée au départ. Ce que je résumais d'une formule simple, je fais courir mon cheval tout seul et je décide qu'il est le plus rapide. Alors, j'ai commencé dès 2004 à rêver d'une autre structure et d'une fédération européenne parce que je me suis dit qu'on ne pouvait pas rester sur un isolat de ce genre. J'ai intéressé le CNRS à mon projet et c'est ainsi que s'est mis en place un GDR, un groupe de recherche. Le groupe de recherche s'appelait SOR, Société Rurale Européenne. Il était très modestement financé par le CNRS. Il a duré 8 ans. Sous deux formes, le GDR SOR puis le GDR HCE, Histoire des campagnes européennes. Ça nous a emmené jusqu'en 2012. Et donc, pendant 8 ans, nous avons pu commencer, avec ces faibles crédits, à amorcer des rencontres, des discussions avec nos collègues étrangers, notamment avec les Espagnols, en particulier avec Gérone, qui est un grand pôle d'histoire rurale en Espagne. Et on a même participé tous les ans au séminario depuis maintenant 7-8 ans, je ne sais plus. Mais le problème qui nous a été posé, c'est que le GDR a complètement dérapé. On voulait une petite cellule, modeste, qui permette d'aider à la marge des projets européens. Mais quand nous sommes passés à une autre échelle avec Progressor, nous sommes retrouvés devant une situation un peu différente. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé deux choses. D'abord, un collègue allemand qui m'envoie un message pour me dire qu'il y a un appel à projet européen. Je regarde ça avec une certaine méfiance, puis je me dis pourquoi pas. Je téléphone à Annie, et nous avons une conversation mémorable. Elle me dit c'est impossible, il y a assez 8 jours pour faire le projet. Et elle me dit mais je crois que tu as envie d'y aller, on va le faire. Et on l'a fait à deux, effectivement, et en 8 jours, on a monté un projet en puisant dans GDR. Et on a eu ce projet, et on a donc été très financé. On est passé assez bien, puisqu'il y avait 4 projets retenus sur 44, et on a pu faire travailler les chercheurs de 22 pays. Presque tous les pays européens ont été impliqués à un moment ou à un autre dans ce projet. On a pu ainsi faire participer 200 chercheurs aux différentes rencontres que nous avons organisées, et donc nous avons ainsi réussi à monter un vrai projet européen qui a très bien fonctionné, en parlant dans ce que j'appelle l'ICL, l'International Common Language, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu comme du Canada Dry, ça ressemble à de l'anglais, mais c'est pas de l'anglais. Mais c'était indispensable, car sinon les Européens de l'Est, les Scandinaves voulaient faire sécession. Donc c'était ou ça ou arrêter. Et je me suis aperçu alors d'une chose que je ne soupçonnais pas, c'est que quand je suis arrivé dans les instances du COS pour expliquer ce qu'on faisait, ils n'avaient rien contre le fait qu'on s'exprime en français. Ils n'avaient même pas pensé que c'était possible. Ils n'avaient même pas pensé que ça existait. Donc, nous avons donc baragouiné pendant 12 colloques en 3 ans dans un anglais approximatif. Alors, le colloque s'est terminé par un grand congrès à Gérone en 2009. Et nous avons alors décidé de lancer une publication, une collection qui s'appelle Rural History in Europe, que je dirige encore actuellement. Il y a 9 volumes qui sont parus, moi aussi je vais faire un peu de publicité. Notamment celui-ci qui vient de paraître sous ma co-direction, Property Rights, Land Market and Economic Growth. C'est une série de 25 contributions de toute l'Europe, avec une introduction assez méchante que j'ai rédigée avec Jean-Michel Chevet. Et donc, il y en a 9 comme ça, je ne les ai pas tous amenés parce que ça faisait un petit peu lourd. Nous en avons, comme il y a eu 12 colonnes, nous en avons encore 3 à faire, et la collection va continuer avec d'autres publications qui sont déjà en train. Je crois que, d'une certaine façon, ce programme a été, je ne vais pas être trop modeste, un succès. Je me suis laissé entendre lors d'une réunion à À Larnaca, quand on fait des réunions au niveau européen, on ne va pas à Villeneuve-Saint-Georges, on va en Chypre, que le programme COS que nous avions ainsi réussi à faire était, sinon le meilleur, probablement au moins l'un des meilleurs qu'ils aient financé. Ils en étaient très fiers. Et le fait que nous ayons annoncé 12 volumes avec une sélection des papiers, car ces volumes sont construits comme une revue. Chaque article est soumis à deux référistes. Chaque volume est soumis à deux superviseurs. Chaque introduction est soumise également à deux référistes. C'est ensuite validé par le comité scientifique de 7 membres, qui contrôle donc la production de l'ouvrage. Donc c'est une procédure extrêmement longue, mais qui se veut, comme disent nos collègues de l'Europe du Nord-Ouest, high quality. Alors, ensuite, j'ai voulu prolonger un peu ce programme. Évidemment, pour monter un programme européen, ce n'est pas tous les jours. Donc, actuellement, nous avons un GDRI qui a démarré en 2012, pour 4 ans, et qui, lui, est une vraie fédération de 9 équipes européennes autour d'une nouvelle thématique. C'est le sens de CRISEC, Crisis and Change in European Countryside. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a eu ainsi, de 2005 à jusqu'en 2015, tout au long de l'histoire de ce séminaire, un accompagnement de la recherche en parallèle avec une ouverture internationale extrêmement lourde. Alors, je ne veux pas aller plus loin sur ce thème, je voudrais dire pourquoi avoir ouvert si largement à l'international. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, dès 1994, je pense que Jean-Marc a certainement, j'imagine, on n'en a jamais parlé, mais j'avais eu l'impression que nous étions quand même relativement marginaux, très isolés par rapport à nos collègues. On voyait les coups qui s'échangeaient entre les Flamands et les Anglais, parce qu'ils ne se ménagent pas, mais nous n'étions que spectateurs, et cela m'avait un peu chagriné, pour dire la vérité. En fait, nos travaux, vos travaux, l'histoire rurale française continue à produire des travaux de très grande qualité. Et entre nous, ça fonctionne très bien. Nous avons effectivement des liens entre nous, nous nous lisons, nous savons qu'il existe des choses importantes. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. C'est limité quasiment à un grand hexagone avec la Suisse, la partie belge francophone, mais pas au-delà. Ça ne passe pas. Vous verrez les bibliographies. C'est atterrant. Il n'y a jamais un article ou un livre français cité. Et s'il l'est, c'est parce qu'il y a eu une traduction ou un autre article qui a été écrit. Je prends mon exemple. Chaque fois que je me vois citer, on me cite et on cite mon livre. Le problème, c'est que ce qu'on cite n'est pas dans le livre. C'est un article que j'ai fait, mais qui n'est pas connu. Et donc, on va citer quelque chose qu'on a lu en anglais. Et on va citer le livre français pour faire joli, mais en réalité, personne n'a regardé le livre. C'est clair, puisque c'est pas dedans. Donc, il ne faut pas vous faire d'illusions, ça ne passe pas. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. À Berne, il y a eu une réunion sur ces problèmes internationaux, et là, on a quand même eu la surprise d'entendre un collègue étranger, pas une surprise, en fait, de dire, c'est très simple, le problème de la langue, ce n'est pas un problème. Le problème de la langue, ce n'est pas vraiment une question. Je peux parler à tout le monde, sauf aux Français. Bien, donc, il me semble qu'il faut faire passer, parce que on fait des choses, on a fait des choses, et il faut que ça se sache, et il faut aussi qu'on sache que les autres font. Encore une anecdote, une dernière peut-être, pour ne pas vous accabler, pour avoir raconté ma vie. Je suis un soir à un dîner, je parle à un flamand, et il me dit, nous allons faire quelque chose de nouveau, nous allons travailler sur les crises. Je lui dis, nous, en France, on a quand même un peu travaillé sur les crises autrefois. On y travaille beaucoup moins aujourd'hui, mais il y a eu des gens. Ah bon, vous avez travaillé sur les crises? Oui, par exemple, Ernest Labrousse. Qui ça? Donc, je vois bien que même nos grands ancêtres, dont nous sommes si fiers, on s'est illusionné sur la portée, sur les résonances que ça a pu avoir à l'étranger. Ils sont parfois cités. Ça ne veut pas dire qu'on les a lus. Hein. Donc, je pense qu'il faut... J'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose dans ce sens, que nous avions besoin de parler à nos collègues, besoin de savoir ce qu'ils faisaient, et que nous avions donc besoin d'avoir des contacts avec nos collègues étrangers. Ça veut dire des vrais contacts internationaux. Je n'ai pas été jusqu'à appliquer la règle de l'ESF, qui est une règle simple, au moins 6 pays différents, pas plus de 2 intervenants du même pays. Je ne suis jamais allé jusque-là, mais dès le GDR, la règle a été, dès le départ, posée, et on s'est tenu pendant toute cette période, jamais plus de 50% de Français dans un colloque international. Sinon, il n'est pas international. Alors, c'est vrai que j'ai un milieu scientifique assez favorable. L'école a une solide réputation à l'étranger et elle accueille beaucoup de chercheurs étrangers, ce qui a permis de construire le réseau. Il faut savoir que tous les ans, à l'école des études, passent à peu près 150 chercheurs étrangers pendant un mois. C'est quand même, évidemment, une force considérable. Et c'est clair que si je n'avais pas été directeur d'études à l'école, je n'aurais pas pu créer ce réseau. J'ai bénéficié largement, je dois dire, de ce réseau, puisque j'ai dû, en 10 ans, inviter une vingtaine de collègues étrangers, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, donc, il y a des collègues étrangers qui viennent. Il y a des collègues étrangers qui, maintenant, quand ils passent par Paris, viennent presque systématiquement au séminaire, et même maintenant, qui proposent d'intervenir au séminaire. Mon problème maintenant est un peu autre. J'ai 13 séances, et plus ça va, moins je parle dans mon séminaire, parce que je ne peux plus. J'ai trop de propositions, je n'y arrive plus concrètement. Voici les intervenants français et étrangers du séminaire. Plus de 50% des intervenants de mon séminaire sont des intervenants étrangers. 79 exposés contre 60 français en 10 ans. Et encore, je pèse pour pratiquement un quart des exposés à moi tout seul. Ça s'est accentué. Là, il y avait un quasi-équilibre pendant les premières 5 années. Maintenant, la proportion est pratiquement de 3 à 2. Donc nous avons beaucoup plus d'interventions de collègues étrangers. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'intervenants français. Il faut aussi qu'on ait des intervenants français. On a des Français, on a des Parisiens, on a des provinciaux. On est surtout attentif aux jeunes docteurs. C'est très important pour nous que les jeunes docteurs ou les thésards, ceux qui sont en cours de thèse, viennent s'exprimer. Vous verrez quand je vais expliquer un peu quelques collègues, quelques intervenants qui sont venus à ce séminaire, qu'il y a de plus en plus de docteurs ou de jeunes thésards qui viennent présenter leurs recherches. C'est très important pour savoir quelle est la recherche qui est en train de se faire, qui est en train de se développer. Les nationalités sont extrêmement variées, avec évidemment deux points forts, l'Italie et l'Espagne, et puis également derrière les États-Unis et le Canada, et enfin l'Angleterre, l'Allemagne, mais nous avons des intervenants qui viennent de, bon, la plupart des pays d'Europe, il ne faut pas exagérer, mais de beaucoup de pays d'Europe et hors d'Europe, puisque nous avons de plus en plus développé la participation de collègues qui viennent d'autres continents, notamment d'Amérique latine. Les participants au séminaire sont évidemment essentiellement français, mais nous avons un bon quart de participants étrangers. Ça, c'est un sondage sur une année, la dernière année. C'est pas significatif. Une année, on va avoir plus d'Italiens et une autre année, plus d'Espagnols. Ça change, donc la répartition dans la nationalité ne dit pas grand-chose. Mais simplement pour vous montrer que nous avons des collègues ou des chercheurs ou des jeunes chercheurs qui viennent de pays extrêmement différents et qui donc irriguent le séminaire, apportent des idées, nous apportent des motifs de revoir parfois certaines choses que nous croyions et auxquelles nous ne croyons plus. Alors, maintenant, j'en viens peut-être à ce qui est plus intéressant pour vous. C'est ce séminaire, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on a fait? De quoi a-t-on discuté dans ce séminaire? Encore une fois, je ne vais pas vous faire un rappel des 139 communications, ça serait peut-être un petit peu long et peut-être pas un peu fastidieux. Ça va peut-être l'être quand même un petit peu, parce que je vais être amené à évoquer et des priorités et des intervenants qui ont fait avancer notre réflexion. Alors, au départ, le séminaire a reposé sur trois thématiques principales, sur trois pieds. Propriété, stratégie, changement. Très rapidement, avec le GDR et le COST, nous avons complètement inscrit le séminaire dans les problématiques européennes que nous avions promues. C'est-à-dire propriété, système productif, liens sociaux et politique d'encouragement à l'agriculture. Donc, c'est au cours de ces C'est avec ces quatre thématiques que nous avons fait fonctionner le séminaire. Pas de programme vraiment thématique sur chacune des années de ce séminaire. Nous prenons ce qui passe. Si un collègue vient un mois d'Argentine, on ne va pas le laisser passer. Il n'est pas forcément dans l'axe, un axe que nous aurions privilégié cette année-là, mais on va le faire parler. Donc nous avons quelque chose qui est relativement hétérogène, même s'il y a une certaine cohérence par rapport au libellé fondamental du séminaire. Évidemment, ça serait mieux d'avoir quelque chose de thématique, mais ça ne pourrait pas fonctionner, puisqu'à ce moment-là, on serait obligé de dire « Ah ben non, vous êtes là cette année, mais c'était l'année prochaine qu'on devait en parler, donc revenez l'an prochain », ce qui n'est pas forcément vrai quand on vient de Tandil ou de Mexico. Alors, la propriété a été l'un des premiers fils rouges, forcément, de ce séminaire. Et la propriété reste encore, le foncier reste encore un thème fondamental du séminaire. Propriété à travers toutes sortes de thématiques, notamment le problème des crises agraires, le problème des réformes agraires. Ce qui nous a renvoyé à d'autres thèmes qui sont complètement liés à cela, c'est-à-dire l'exercice des droits de propriété sur la terre, l'accès au foncier. Qui a des droits sur la terre? Comment s'articulent les systèmes de possession du foncier et comment on accède à la propriété? Derrière, il y a eu une interrogation qu'on a développée particulièrement et qui est inscrite dans le livre qui est ici, là, que j'ai co-dirigé. Est-ce qu'on peut croire, comme le font nos collègues institutionnalistes et économistes, pour la majorité d'entre eux, est-ce que la propriété parfaite, absolue, est une condition indispensable au progrès agricole? Est-ce qu'il y a un lien entre le système de propriété, entre l'exercice des droits de propriété et le progrès de l'agriculture? Est-ce que les enclosures, les fameuses enclosures dont on nous a, peut-être pas vous, vous y avez peut-être échappé, mais moi je n'y ai pas échappé, est-ce que les fameuses enclosures dont on nous a rebattu les oreilles pendant tant d'années ont été le vrai facteur déclencheur de la révolution agricole anglaise? On peut en douter. Est-ce que la révolution, en instituant un droit de propriété absolu, a réellement été un élément majeur pour développer l'agriculture? Est-ce que ça a permis de dynamiser le marché de la terre? Est-ce qu'avant la révolution, il n'y avait pas de marché de la terre, par exemple, en France? Et est-ce que l'ouverture du marché de la terre a été un facteur qui a permis, comme le disent les penseurs économistes espagnols au XVIIIe siècle, est-ce qu'un marché foncier actif a été une condition sine qua non du progrès économique? Voilà le genre de questions qu'on s'est posées et auxquelles on a essayé de répondre. Le titre rend assez mal compte du contenu du volume, puisque nous sommes partis sur l'hypothèse au départ. Nous allons essayer de voir s'il y a un lien entre tous ces facteurs. Et on était assez enthousiaste au départ, mais à mesure qu'on a avancé, on a été de plus en plus critique et à la fin, on n'y croyait plus du tout. Donc on a fait une espèce de virage à mi-course pour essayer finalement de démontrer qu'en réalité, tout cela n'était pas si important et que ce n'était vraiment pas des causes fondamentales de développement économique. Alors, dans ce créneau, nous avons reçu des interventions, notamment Rui Santos et Rosa Congost sont venus de Lisbonne et de Gérone pour nous parler des modèles de système de propriété portugais, c'est l'Antejo et catalan, et de là pour construire ce qu'ils ont dénommé des systèmes de propriété plus généraux, puisqu'ils en ont fait une espèce de machine pour structurer la société. Alors après, on peut en discuter, bien entendu, c'est ce qu'on a fait, mais essayer de voir en quoi les droits de propriété pouvaient structurer, avoir un lien avec l'organisation de la société. Nous avons beaucoup parlé des contrats agraires, et notamment d'un contrat qui n'est pas très pratiqué, et qu'on a même tendance à penser comme un peu archaïque, l'emphytéose. Et on s'est aperçu que l'emphytéose, on en avait un peu partout, et qu'en réalité, l'emphytéose, ces contrats à long terme avec l'amélioration du foncier, avaient pu être un instrument de mise en valeur de l'agriculture et des terres. On a beaucoup parlé, ça a été un thème de séminaire que moi-même j'ai évoqué, et d'autres, Pablo Luna et d'autres, ont évoqué dans le séminaire. On a évidemment parlé des réformes agraires, de la redistribution de la propriété, et On l'a fait surtout avec l'Espagne, et notamment essayer de mesurer, d'évaluer, de comprendre les processus de réforme agraire et de désamortisation, comme disent les Espagnols. Ça a débouché sur des séminaires, ça a débouché sur une grande réunion à Gérone, ça a débouché sur ce livre que Bernard Bodinier, ici présent, a co-dirigé avec Pablo Luna et avec Rosa Congost sur la question de la désamortisation espagnole et française, avec un livre important sur cette question. D'autres avant eux avaient déjà un peu parlé de cette question, Maria Teresa Pérez Picasso, il y avait eu d'autres interventions sur ces questions dans le séminaire, cette question donc de la réforme agraire et de l'impact qu'elle peut avoir eu sur l'agriculture. Aujourd'hui, on se pose d'autres questions. Tim Le Goff et puis un étudiant qui vient de Chicago et qui vient à Paris sur des séjours de 6 mois s'interrogent sur l'archaïsme de la gestion des biens de main morte. Est-ce que réellement les propriétés de l'Église étaient mal gérées? Est-ce que vraiment elles étaient un handicap pour le progrès agricole? Et là-dessus, les réponses qu'ils sont en train de formuler sont extrêmement nuancées. Notamment, est-ce que l'Église s'abstenait d'investir? Et bien, c'est pas du tout si évident que ça. Et donc, il y a une remise en cause qui est en train de se faire là-dessus. On a parlé du marché foncier, évidemment. Je ne vais pas vous faire le catalogue de toutes les interventions sur le marché foncier. Je parlerai de deux interventions, peut-être. Trois. D'abord, une intervention de Jean Effer, qui travaille sur le comté de Lincoln aux États-Unis et qui a construit des modèles économétriques pour essayer de comprendre comment se formait le prix de la terre, quels étaient les facteurs qui commandaient le prix de la terre et comment ces facteurs pouvaient influencer le prix de la terre. Proximité d'une rivière, accès au marché, etc. Mettre tout ça dans un modèle. Je cite aussi Georg Fertisch, qui lui est venu d'Allemagne et qui nous a parlé des liens entre le marché de la terre et les cycles de vie et les réseaux familiaux, la façon dont les réseaux peuvent structurer le marché de la terre et avoir une influence sur l'orientation du marché et sur la fixation des prix. Je vais m'arrêter là pour le marché foncier. On a aussi parlé de la seigneurie. Annie a été au premier plan sur cette question, mais on a aussi des interventions de Richard Hoyle en Angleterre et Benoît Coignet, dont on a parlé tout à l'heure, qui vient du Canada. Et donc, on a eu une remise en cause de ce que nous croyons savoir sur la seigneurie. Bon, alors, je ne reviens pas sur les visions décapantes d'Annie sur la seigneurie prestataire de services et non pas structure d'exploitation. Belle réhabilitation de la seigneurie. Mais aussi, chez Benoît Grenier, le fait que cette seigneurie a perduré jusqu'en 1940 au Québec, sans que personne n'ait vraiment eu envie ou tellement l'intention fondamentale de s'en séparer, pour des tas de raisons qui sont à expliciter, évidemment. Et donc, cette question de la seigneurie nous a beaucoup arrêtés également. On a parlé des communaux, et là, on a eu des choses sur la façon dont s'était engagée la privatisation des communaux en Lorraine. C'est un Anglais, Peter Jones, qui est venu montrer comment la Galisière, l'intendant de Lorraine, avait essayé de promouvoir le partage des communaux. Et puis de Noël Plaque, qui travaille sur les biens communaux dans le Languedoc et qui a soutenu une thèse là-dessus, et qui prétend que le partage des communaux en Languedoc a été un facteur déclencheur pour le développement de la viticulture dans le Languedoc. Donc, si vous voulez, la privatisation, le fait que ces communaux étaient partagés, aurait provoqué le lotissement de ces communaux, et donc les nouveaux propriétaires auraient ainsi développé la culture du vignoble pour les mettre en valeur. Alors, ensuite, il y a la question de l'exploitation. Et les études récentes ont montré, on savait depuis Jean-Marc Morisseau, combien la grande exploitation, les grands fermiers d'Île-de-France n'avaient pas grand-chose à envier aux grands fermiers britanniques, qui étaient quand même des facteurs d'innovation, de progrès. On a, pour les grands fermiers, véritablement été capable de répondre qu'en France, il existait aussi un fermier capitaliste, pour parler court, qui avait ainsi promu une agriculture moderne, innovatrice. Mais on a essayé aussi de montrer la vitalité de la petite exploitation, et notamment les agricultures périurbaines, qui jusque-là avaient retenu beaucoup moins l'attention que les agricultures plus lointaines. On a pu faire ainsi parler des jeunes chercheurs qui venaient de faire leur thèse, trois essentiellement, c'est-à-dire Hervé Benzon sur Montreuil, et donc le développement de la pêche à Montreuil en utilisant les potentialités du marché parisien, mais aussi Clément Gurville au XVIe siècle, avec une petite paysannerie dans Paris, qui commercialise ses produits auprès de la clientèle parisienne, et qui cultive donc toutes sortes de plantes maraîchères et potagères pour le marché parisien, avec en tête l'asperge et l'artichaut, qui sont les légumes les plus demandés, puisqu'il peut recenser planche par planche tout ce qu'on cultivait dans ces petites exploitations. Et enfin la thèse de Florent Méroux sur Montmorency, qui montre comment on a pu passer toujours avec l'appel du marché parisien d'une céréaliculture ruinée par la fronde à un vignoble lorsqu'on est dans la phase de reconstruction, puis après le grand hiver de 1709, les vignes étant gelées, comment on a reconverti la production vers l'arboriculture, notamment la cerise, mais aussi de Montmorency, mais aussi tous les fruits qui ont pu ainsi être mis en valeur, cultivés et exploités et vendus. On a beaucoup parlé aussi des dynamiques sociales, des tensions et des mutations de la société. On a travaillé sur les classifications, qui est un vieux thème dont on n'est jamais vraiment sorti et donc pour lesquels l'historiographie pagaille depuis quand même de nombreuses années. Comment structurer la société, comment l'organiser pour que ça ait un sens. Donc j'ai déjà parlé du projet de Rui Santos, notre collègue portugais, qui essaye de construire une stratification paysanne à partir de l'étendue de la gamme des droits de propriété que les exploitants peuvent posséder. Il estime que c'est un instrument de classification opératoire et qu'on peut ainsi stratifier le social à partir des droits de propriété. Rosa Congost, elle, a essayé de montrer comment cette propriété pouvait bouger et comment, dans une société qu'on a tendance à considérer comme figée, avait pu brutalement émerger ce qu'elle appelle une classe moyenne. C'est-à-dire qu'entre le groupe des trabalhadores et des labradores, c'est-à-dire laboureurs journaliers pour simplifier, surgit brutalement, fin du 8e siècle, une catégorie qui se veut intermédiaire, qu'on appelle les menestrals, qui ne sont ni travailleurs ni laboureurs, mais qui d'un seul coup surgissent dans la documentation et occupent une position charnière à l'intérieur du corps social. Elle a remis cela sur d'autres exposés, notamment en abordant de manière critique un autre thème phare de l'historiographie, c'est-à-dire la question de la révolution industrieuse. Alors ça, c'est un thème que les anglo-saxons adorent. L'idée de départ a été développée par Jan de Vries. Elle consiste à expliquer qu'au XVIIe siècle, à partir du XVIIe siècle, les travailleurs ruraux ou urbains ont eu un appétit de consommation exacerbé, et pour pouvoir satisfaire cet appétit de consommation, se sont mis à travailler plus qu'ils ne faisaient avant. Donc, l'offre de produits nouveaux aurait été un aiguillon pour promouvoir un développement de la production et une intensification du travail. Donc c'est un thème qui est communément admis dans le monde, c'est un dogme, hein. Vous ne pouvez pas y échapper, pour eux c'est une vérité. Bon, on peut avoir un regard assez critique, ce que j'ai eu, je suis intervenu sur cette question, j'ai montré que le lien était vraiment peu évident, notamment en travaillant sur les inventaires qu'avait laissé Micheline Bolland, plus de 1000 inventaires, qui permettent de serrer la consommation des ruraux et de montrer qu'il n'y a pas vraiment de décalage, il n'y a pas vraiment de lien entre le développement d'une production agricole qui aurait explosé et l'intensification de la consommation d'objets ou de modes de vie différents. Ça, c'est sur deux siècles. On a eu d'autres interventions un peu du même type, soit par Belén Moreno Claverias sur l'Espagne, sur la progression du niveau de vie en Espagne, ou sur la Belgique, mais pas la Belgique flamande, l'autre, qui n'a rien à voir avec la flamande. Celle avec Paul Servet, qui a montré les transformations de la culture matérielle au XVIIIe siècle. Je ne voudrais pas laisser de côté la présentation de Jérôme Jambu, qui a été une intervention importante, notamment pour remettre en cause un autre dogme de l'historiographie qui couvre absolument toute la production ancienne, l'absence de monnaie et de moyens de paiement dans les sociétés d'Ancien Régime. Donc Jérôme a pu montrer qu'en réalité, il ne faut pas non plus exagérer, hein, je ne dis pas que la monnaie circule intensément, mais que cette société rurale n'est pas si dépourvue de monnaie qu'on l'a dit, et qu'il y a bien la circulation de monnaie métallique lourde à l'intérieur des campagnes, et que c'est une illusion. Jean-Marc l'avait montré pour les grands fermiers, mais Jérôme l'a montré que c'était peut-être un peu plus, il y a peut-être encore plus de capillarité que cela. On a vu l'autre intervention assez intéressante sur les stratégies d'épargne. L'idée que la petite exploitation n'a qu'une vocation, c'est de disparaître, qu'elle n'a pas d'avenir, a été remise en cause très sévèrement par Laurent Hermand dans un de ses exposés, et c'est l'un des arguments du livre qu'il a publié. L'idée, c'est que cette petite paysannerie qui est vouée à disparaître, elle ne disparaît finalement pas. Donc il a bien fallu qu'elle trouve des moyens de survivre, et donc il y a quand même une interrogation, comment cette petite paysannerie a pu obtenir les moyens de sa survie en complément ou à la marge des exploitations plus solides qui évidemment tenaient le bout du pavé, notamment dans les campagnes de la région parisienne. Alors il y a des explications, et notamment le fait que finalement l'avantage de la petite exploitation, c'est un, je simplifie, je schématise à outrance, hein. Elle a besoin de peu de capitaux pour s'installer, donc elle n'est pas tributaire de l'irrigation familiale d'une masse de capitaux pour pouvoir s'installer sur une ferme. Et d'autre part, elle est beaucoup moins tributaire du marché, et donc elle résiste mieux jusqu'au XIXe siècle à la conjoncture. En cas de crise, elle est plus adaptable. Ça ne veut pas dire que tout est rose sur l'exploitation, mais elle a plus de capacité de résistance, c'est ça que je veux dire. Alors, on a parlé aussi beaucoup du crédit, et il y a eu beaucoup d'interventions sur le crédit. Crédit formel, crédit informel, articulation entre des crédits notariés et des crédits qui se passent dans la famille ou qui se passent entre voisins, entre amis, entre relations. La difficulté, on la connaît bien, c'est que le circuit notarié, on le connaît bien, c'est facile, n'exagérons pas. C'est relativement aisé de le saisir, on peut facilement trouver des actes notariés de crédit, et il y a eu beaucoup de travaux sur cette question. Le problème, c'est l'informel. Et là, nous avons eu donc un certain nombre d'interventions, je citerai la mienne, notamment parce que j'ai eu accès à des actes sous sa privée lorsqu'ils sont enregistrés par le contrôle des actes. Donc on peut s'apercevoir que ce n'est qu'une petite partie de l'iceberg, uniquement les actes sous sa privée qui sont enregistrés. C'est une partie, je reconnais probablement, marginale de la masse du crédit qui circule de manière informelle, mais ça permet d'avoir une idée de l'importance et du mode de circulation de ce crédit informel. On s'aperçoit que ce crédit informel est très important, même au niveau de l'enregistrement. Il y a autant d'actes à charte, autant d'actes enregistrés sous sa privée que d'actes qui passent sous actes notariés. C'est extrêmement important, ce qu'on soupçonnait. Et on s'aperçoit aussi d'autre chose, c'est que les délais de remboursement sont absolument vertigineux. Lorsque l'acte est enregistré, ça fait appel à des problèmes de remboursement de quittance extrêmement anciens. couramment 20, 30 ans d'arriérage, on vient devant le contrôleur parce que le débiteur ne paye pas. Et il y a donc toute une masse de crédits ainsi qui reste un peu dans le noir, qu'on ne percevrait pas si le créancier tout à coup ne se réveillait pas et disait « Oh là là, ça a bien fait, on fait 30 ans, il faut peut-être que je fasse quelque chose. » Alors on a eu d'autres interventions sur ce crédit. Par exemple, Thomas Brennan a parlé de l'endettement dans les villages champenois et des réseaux de crédit liés ou non à l'émergence du vignoble de Champagne. Donc on a ici une vision assez neuve du crédit. Ou l'intervention de Laurence Fontaine, qui est venue parler de son livre sur l'économie morale, dont le titre est peut-être un peu gauchi, puisqu'il ne s'agit pas de l'économie morale telle qu'on l'entend au XVIIIe siècle, ça c'est une idée d'éditeur, mais des liens entre le crédit et la pauvreté, les stratégies de survie à travers le microcrédit et la façon dont des systèmes de petits prêts peuvent éventuellement permettre à des catégories pauvres de survivre, voire de développer des productions. On a également parlé des conditions de la croissance agricole et des blocages. Alors j'aimais beaucoup travailler, je travaille beaucoup moins, sur l'évolution de la production et de la productivité, sur les moyens de la mesurer, puisque c'est quand même quelque chose sur lequel on n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Comment mesurer le degré de compétitivité, de productivité d'une exploitation? Comme on fait de la publicité dans ce séminaire, j'en profite pour dire qu'il y a donc un ouvrage collectif qui va paraître sous ma direction et celle de Jean-Michel Chevet, dans les collections du CORN, dont on a parlé tout à l'heure, sur mesurer la production et la productivité agricole. C'est France, Angleterre, Espagne. Et donc ça permet d'ouvrir des pistes sur les faux semblants de la révolution agricole et de la façon un peu biaisée avec laquelle on peut être amené à évaluer les performances des exploitations. On a eu d'autres interventions sur cette question, notamment notre collègue mexicain Alessandro Tortolero est venu nous parler, est venu réhabiliter les latifundias, ce qui n'est pas courant. Et il nous expliquait que les grandes exploitations mexicaines étaient des centres d'innovation et de développement d'un système agro-industriel. Donc, les latifundias étaient un facteur de progrès économique, de développement économique. Évidemment, j'imagine que ça va poser quelques problèmes chez lui, dans un pays qui a quand même connu quelques événements un peu compliqué au début du XXe siècle, mais ça c'est son problème. Donc il a étudié deux zones mexicaines et il montre que si les rancheros qui se trouvent à la périphérie de ces latifundias sont cantonnés sur les zones quand même les moins intéressantes, les latifundias qui sont elles bien installées et qui ont de grandes étendues peuvent se permettre d'asseoir leur économie sur le développement du sucre, etc. etc. D'autres sont venus plaider. Chacun est venu plaider pour le succès de la zone qu'il étudie, et ça c'est beaucoup plus classique. Danilo Gasparini est venu nous expliquer le succès du maïs dans la Venise des 16e et 18e siècles, et expliquer qu'il y avait eu une véritable révolution agricole dans la Vénétie de cette période, fondée sur le développement d'une culture qui a été exploitée de manière intensive, c'est-à-dire le maïs, qui est effectivement une plante qui peut, ne laisse pas certainement tout le monde indifférent. Jean-Michel Derex est venu plaider pour nous montrer la valeur économique des marais et l'importance des dessèchements pour promouvoir toutes sortes d'activités annexes et développer ainsi des niches, des productions agricoles et dynamiser des régions. Alors plus classique aussi, Benoît Musset nous a parlé de la Champagne et de l'avènement d'un vignoble de qualité fondé sur des nouvelles techniques, le bouchon, le fil de fer, la bouteille couchée pour éviter qu'elle n'éclate, etc., etc., mais aussi des réseaux de commercialisation nouveaux, tout un système de diffusion de la nouveauté que constituait le vin mousseux de Champagne. Donc de nouveaux marchés, mais fondés sur l'association entre des vignerons qui produisent et des négociants enfin association un peu illégale, mais disons une complémentarité entre une production locale et des négociants qui ouvrent le marché du champagne, notamment en Angleterre au début, mais les Anglais se sont vite lassés. C'est eux qui ont lancé la mode, mais en fait, le salut est venu plutôt de l'Europe du Nord et de l'Europe orientale, c'est-à-dire de Russie et d'Europe du Nord, avec des vins de champagne de plus en plus sucrés, etc., etc. Nasa a expliqué également que chez Mouette, dans sa publicité, Mouette affirme que jamais on ne sucre le vin de champagne, mais que dans les comptes, il y a des tonnes de champagne qui rentrent. Donc je suppose que Mouette avait une grande consommation familiale de sucre, qu'il était un peu diabétique, mais c'est une autre question. Ensuite, on a eu également un autre vignoble de qualité qui a été sous le projecteur, c'est le Sauterne. Stéphanie Lachaud est venue expliquer comment on avait pu promouvoir un vignoble de qualité, le Sauterne, dans le Bordelais de la période 1650. Sa thèse consiste à expliquer que ce démarrage est très précoce et que dès 1650, on fait du Sauterne. Donc avec des techniques de vendange sélective et des techniques de vendange tardive et avec un système également de commercialisation en direction des clientèles UP, parisiennes ou étrangères. On a parlé de l'élevage. Jean-Pierre Desloumes était venu expliquer l'essor de l'élevage au Limousin au XVIIIe siècle et il avait eu le mérite de nous montrer comment on pouvait exploiter des comptabilités d'exploitation. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de comptabilité d'exploitation et que c'est pour cela qu'on n'a pas pu l'étudier. Ça existe, il faut simplement les trouver et les étudier, ce qui est un travail lourd et compliqué. Et il a montré comment ce réseau Limousin s'est construit vers l'approvisionnement soit de zones d'embouche, soit directement dans le marché parisien. Un autre Canet, Florian Reynaud, frais et mouleux d'une thèse qui a été soutenue ici même, a parlé des écrits agronomiques relatifs à l'élevage bovin entre 1700 et 1850 et la relation que ces traités, ces écrits, pouvaient avoir avec les pratiques réelles qui étaient mises en œuvre sur les exploitations qui faisaient l'élevage. Deux autres choses encore, je termine sur cette question des exploitations ou de ce qui dérive de ces exploitations. Un de mes étudiants travaillant en ce moment, Thierry Michel, sur les techniques de battage du grain et de conservation des grains, et donc essaie de montrer de quelle manière, ça va faire plaisir à Jean-Marc, ça va lui aller droit au cœur, comment, dans quelle mesure, les cribles et les taras, ça te rappelle les souvenirs, ont pu s'introduire dans et dans quel type d'exploitation, qui est l'agent de transmission de ces novations techniques. Il essaye de trouver non pas le point zéro, mais comment se diffuse, commence dans la société l'utilisation de ces instruments qui sont encore nouveaux au XVIIIe siècle. Dernier axe, c'est le rôle de l'État, le rôle des institutions, et là-dessus, on a eu beaucoup d'exposés sur le rôle de l'État, la façon dont l'État et les institutions ont pris en charge la protection de l'agriculture ou ont essayé de promouvoir le progrès agricole. Alors, on a beaucoup parlé des mécanismes d'intervention et de régulation des marchés, comment l'État a pu gérer des crises alimentaires, comment il a essayé de pallier des crises de surproduction ou de sous-production, comment il a voulu piloter les prix, contrôler les importations par des taxes douanières, etc., etc. Donc, on a beaucoup parlé d'enseignement à l'école, de l'influence des agronomes, des sociétés d'agriculture, d'introduction des caisses de crédit, d'apparition des syndicats, des coopératives qui sont devenues un des thèmes majeurs du séminaire depuis que Niccolò Miemi a soutenu il y a un an sa thèse sur la comparaison entre les coopératives françaises et les coopératives italiennes au XXe siècle. Donc montrer comment la notion de coopérative ne va pas de soi et comment les coopératives françaises et italiennes renvoient à des réalités, à des systèmes complètement différents, des objectifs complètement différents, au-delà évidemment du fait qu'il y a eu une histoire politique quand même extrêmement dissemblable, un pays qui a connu le fascisme et un pays qui a eu simplement un état vichiste beaucoup plus bref. Donc comment on a pu avoir des relations coopératives extrêmement contrastées. On a également parlé d'enseignement agricole, je l'ai dit, notamment le livre que Nadine Vivier a publié, qui est un livre collectif sur States and Rural Society, Policy and Education in Europe, un livre collectif que j'ai également apporté ici et qui est dans la même collection. C'était le premier colloque du COST, et évidemment ce livre, on en a parlé au séminaire et on a montré comment des expériences dans différents pays, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Hongrie, en Italie et en Suède, avaient pu ainsi avoir cours et ainsi dynamiser ou pas, avoir une influence ou pas sur l'enseignement agricole. On a aussi parlé des fermes écoles en Bretagne, c'était la thèse qu'avait soutenue Nagua El Mahati. Jean-Marc était au jury, et donc il connaît bien cette thèse, montrer comment s'était construit un enseignement agricole à travers ces fermes écoles en Bretagne au XIXe siècle. On a parlé réforme dans le sens statistique et fiscal. Lars Behrisch avait pris l'exemple du comté de la principauté de Lippe en Allemagne, que tout le monde connaît, je suis sûr, et il avait montré comment dans cette principauté, l'État s'était employé, pour des raisons fiscales et autres, à organiser un service de statistiques précisément pour essayer de concevoir comment on pouvait développer l'agriculture en s'appuyant sur ce type de statistiques. Albus Ali Kaya était venu de Turquie, il avait fait une thèse à l'école et il a parlé des réformes fiscales du Tanzimat, c'est-à-dire de l'effort d'une jeune génération de Turcs qui, dans les années 1838-40, essaye de bouleverser, de changer le système politique turc, de reconstruire une fiscalité et pour ça de construire un appareil statistique qui permette de taxer les gens dans la mesure du possible. Il a également évidemment montré toutes les difficultés que ces réformateurs ont rencontrées et les formidables résistances que la société turque a opposées à la connaissance de ce que chacun possédait et à la pression fiscale que l'on menaçait d'imposer. Enfin, pour terminer sur ce thème, Rita Aldenhoff-Humia avait été venue expliquer les résultats de sa thèse et notamment parler du protectionnisme allemand à la fin du XIXe siècle, protectionnisme qu'on trouve un peu partout en Europe au moment de la grande crise agricole des années 1880, et montrer que le protectionnisme qui fleurit un peu partout en Europe est un protectionnisme surtout, je schématise, disons anti-américain, c'est les blés américains qui arrivent en Europe à ce moment-là, qui concurrencent les blés européens, et elle n'hésitait pas à voir dans cette amorce de réaction protectionniste, l'ancêtre de la politique agricole commune à ses débuts, c'est-à-dire l'entourage douanier d'une zone pour protéger le marché européen. Pour terminer sur un dernier thème, je vous ai dit que c'était les crises et les changements qui étaient maintenant à l'ordre du jour. C'est effectivement de cela dont il est de plus en plus question dans ce séminaire aujourd'hui, donc c'est un projet qui est en cours et sur lequel nous avons peut-être moins investi puisque ce n'est que récemment que nous sommes tournés vers cette question, même si nous avions déjà fait des exposés un peu là-dessus. Je parlerai de trois exposés simplement, en dehors des exposés que moi-même j'ai faits pour faire le point sur où en sommes-nous sur la question des crises en France après 20 ans de jachère, puisque personne ne travaille plus pratiquement en France là-dessus, il faut bien le dire. Nous avons bénéficié de trois exposés importants. D'abord, Guido Alfani, qui est venu parler de la grande famine de 1593-1594 en Italie du Nord. C'est une famine qui s'est ensuite doublée d'une peste, donc il est revenu nous parler de la peste pendant qu'il y était. Donc on a fait les deux, peste et famine, c'était très bien. Une peste et une famine qui ont quand même tué un bon tiers de la population d'Italie du Nord pendant ces quelques années, donc une peste qui a eu des répercussions considérables, notamment qui a déstructuré le système économique nord-italien, qui a également déstructuré socialement les campagnes du nord de l'Italie et aussi les villes, et une peste et une famine dont l'Italie a mis près d'un demi-siècle à se remettre. Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard que l'Italie du Nord retrouve à peu près le niveau de population qu'elle avait avant la famine et la peste. Ça ne s'est rien comparable, même notre crise de 1694-94, qui est une très belle crise, n'a pas eu des effets aussi majeurs que l'a pu avoir cette crise italienne. Et la thèse de Dalfani, c'est qu'en réalité, tout ce qu'on attribue sur le retard ou la prise de retard du système économique italien est largement tributaire de cette crise qui a complètement décimé la production et la consommation d'Italie du Nord et a créé un handicap et un retard qui n'a jamais été totalement comblé. Cormac O'Grada est venu d'Irlande, et là on a un bon spécialiste des crises avec la crise irlandaise de 1847-48, mais c'est pas de ça dont il nous a parlé. C'est le grand spécialiste des crises aujourd'hui, puisqu'il a écrit plusieurs ouvrages sur les crises, qui sont des ouvrages soit ponctuels sur la crise irlandaise qu'il affectionne particulièrement, soit sur les crises mondiales. Il est d'ailleurs sur un projet actuellement de mise en évidence des crises à l'échelle mondiale. Et il nous a parlé surtout de la crise de 1943 au Bengale, qui a été une crise absolument terrible, qui en plus intervient en pleine guerre, Deuxième Guerre mondiale, et donc qui a largement décimé une partie de ce qui est Bangladesh actuel, et il a montré les effets absolument catastrophiques de cette crise pour l'économie locale et pour la population. Et puis, je vais quand même parler d'Alain Gilles, qui est venu aussi, plus récemment, et lui, il nous a parlé, comme il est plus optimiste, il nous a parlé du sarrasin et expliqué comment, dans quelle mesure, le sarrasin avait pu constituer un palliatif pour essayer de dévier les crises de subsistance. Et donc, je ne reviens pas sur le fait qu'il travaille sur cette question et qu'il développe cela sur toute la France du Nord-Ouest, sur toute la partie Normandie-Bretagne, Normandie surtout. Je pense qu'effectivement, la façon dont les Européens, les populations rurales européennes ont pu surmonter les crises est un des thèmes majeurs de notre séminaire. C'est quand même quelque chose d'assez important. Ça avait été un peu attiré parce que Richard Hoyle était venu nous expliquer fièrement pourquoi la crise de 1693-94 n'avait pas eu d'effet en Angleterre. Vous voyez le sourire en coin. Pourquoi vous, Français, vous avez eu 1,5 million de morts et pourquoi nous, on n'en a pas eu? La réponse est simple, c'est qu'on est quand même plus malin que vous, c'était un peu ça l'idée générale. On a raté la production de blé et on a immédiatement ensemencé en orge. On a aussi fait quelque chose d'horrible, on a interdit le brassage de la bière, enfin ça c'est anecdotique. Pour un Anglais, c'est quand même pas anecdotique. Donc la question c'est pourquoi, il est évident que ce remplacement du blé par des cultures de printemps n'était pas complètement ignoré en France, mais le ripage n'était pas si facile qu'en Angleterre. Déjà interdit le brassage de la bière, là où on ne boit pas de bière, ça ne sert pas à grand chose. Donc il y a quand même un certain nombre de déviations qui sont importantes. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop lassé avec cet exposé qui est un peu long et qui est un peu un catalogue. Mais je voulais montrer que tous ces exposés sont évidemment des exposés un peu en miettes, mais qui se rattachent tous à des thématiques et qui sont pour nous des instruments, des outils de réflexion pour faire avancer la réflexion plus générale que nous avons sur l'histoire et l'évolution des sociétés rurales. Ça nous a permis de voir la recherche qui se fait, c'est pour ça que dès qu'un étudiant soutient une thèse, une bonne thèse, on essaye de le faire venir pour savoir ce qu'il a fait et pouvoir en discuter avec lui. Ça a été l'amorce de journées de colloques. Souvent, un colloque est parti d'une intervention au séminaire, on s'est dit « Ah là, il y a un sujet qu'on connaît mal, et ça serait bien de réunir des collègues étrangers pour voir ce qu'ils ont à nous dire sur cette question. Est-ce que ça les intéresse ou pas ?» Est-ce qu'ils ont avancé plus vite que nous là-dessus? Ou même est-ce qu'ils sont en retard? Et donc, on a pu ainsi avoir des connexions importantes avec le milieu des ruralistes européens. Inversement, le séminaire a servi aussi à faire rebondir les projets, les programmes que nous avons eus pour tirer un peu les leçons. Parce que quand on fait un colloque, ça part un peu dans tous les sens. Il y a un pauvre malheureux qui est chargé en 20 minutes de tirer les leçons du colloque. Ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour, malheureusement. Mais enfin bon, il y en a d'autres qui s'y collent. Mais c'est à chaud. Ce qui est bien, c'est à froid de réfléchir sur ce que le colloque a pu nous apporter et en quoi il y a quelque chose de nouveau qu'il s'agit, ou peut-être qu'il ne faut pas creuser, peut-être qu'on est au bout et qu'il n'y a peut-être rien d'autre à en faire. Hein. Et de là, on publie ou on ne publie pas. Donc j'ai parlé de World History in Europe, qui est vraiment l'un des débouchés possibles pour nos réflexions, mais on a d'autres canaux de diffusion. J'ai parlé du livre de Bernard, Rosa et Pablo sur la désamortisation des bienes ecclésiasticos en Francia, Espagna et América Latina. Mais Bernard le dirait mieux que moi. Un ouvrage qui ainsi permettait de confronter deux systèmes de réforme agraire. On a aussi utilisé des revues, ce qui est plus difficile, parce que les revues ont pris 4 articles, elles sont déjà toutes contentes. Et évidemment, c'est difficile de faire le tri. Quelquefois, il y a des communications qui sont des communications dont on n'a pas vocation à être publiées, mais on ne peut pas dire on va publier 8 ou 9 articles sur 15 ou 16. C'est pas faisable. Donc, on a eu quand même quelques possibilités. J'ai utilisé évidemment ma casquette d'histoire et mesure à 2 ou 3 reprises pour faire passer des paquets d'articles sur des thématiques qui me paraissaient importantes, sur la productivité ou bien sur les crises. Je vais terminer sur deux points simplement. D'abord, il faut bien être conscient que je ne veux pas qu'il y ait de malentendu. Nous ne tentons pas une improbable et artificielle synthèse pour montrer que tout est pareil et qu'en Europe, tout est identique et tout marche de la même façon, ou même se satisfaire en disant « Ah, ils ne sont pas comme nous ». Ça, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt de confronter du travail de terrain. On ne parle pas dans le vide, on ne fait pas de l'idéologie, on ne fait pas de la phrase. On étudie des terrains, on part de terrain. Et je vois bien qu'ici, les gens qui sont dans des projets de recherche, ils sont sur du terrain. Il faut toujours parler, on part de faits. On a des hypothèses, mais ces hypothèses, on les vérifie ou les infirme avec des études de terrain. Les études qui se font localement, on ne peut pas s'en dispenser. Bien, ça c'est la première chose que je voulais, sur laquelle je voulais insister. Je ne voudrais pas que vous croyiez qu'on fait des réunions pour parler comme ça d'un thème gratuitement. Ce n'est pas du tout la façon dont nous travaillons. Je pense que dans ce séminaire, on est aussi sur cette ligne, donc je n'ai pas de difficulté à faire passer ce message. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'ouverture européenne, nous l'avons privilégiée parce que c'était la plus accessible, parce que c'était aussi celle qu'on pouvait financer, parce que ça nous donnait des points d'ancrage qui n'étaient quand même pas trop exotiques. Mais je pense que c'est une étape simplement et que, ce ne sera peut-être pas moi, hein, mais que notre avenir, c'est quand même d'élargir nos travaux vers d'autres horizons. Évidemment, le monde rural est toujours un sujet en France, il est toujours un sujet en Europe, notamment avec le problème des contraintes environnementales, la sécurité alimentaire, le problème du milieu de vie, des paysages, le problème de l'approvisionnement des populations. Tout ça, ce sont des thèmes absolument centraux aujourd'hui, et donc nous ne pouvons pas les évacuer et nous dire que nous n'avons plus rien à dire sur ces questions-là. Nous avons encore à y travailler, et je pense que les travaux qui iront dans ce sens apporteront beaucoup. Mais je voudrais quand même dire que les enjeux, si vous ouvrez votre journal le matin, ils sont aussi ailleurs. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on apprend? Le problème des crises agraires, de la faim de terre, il existe à l'échelle de la planète. Le land grabbing, ça existe. Les crises alimentaires, il y en a sans arrêt. Le problème de la volatilité des prix agricoles, la spéculation sur les marchés, ce sont quelques-uns des défis que l'humanité va avoir à affronter et qu'elle affronte aujourd'hui quotidiennement à l'échelle mondiale. Je pense que nous avons ici, nous historiens, quelque chose à jouer là-dedans. Nous sommes historiens, mais ce que nous pouvons apporter, c'est une expérience historique. C'est pas, on ne va pas donner la solution. On ne va pas dire ce qui a marché au 18e siècle, vous n'avez qu'à l'appliquer maintenant et ça va marcher. Ce n'est pas ça le problème. Hein. Le problème, c'est que nous avons dans nos bagages, dans notre cartable, dans nos outils, des instruments de compréhension de ces problèmes auxquels les sociétés contemporaines sont confrontées aujourd'hui. Et que nous devons, si nous ne voulons pas être marginalisés, nous devons apporter notre expertise et expliquer pourquoi ça se passait ainsi, comment on faisait, et en quoi ce monde-ci est identique ou différent. Je pense qu'on ne peut pas se détourner des problèmes contemporains et que nous avons une vraie mission à accomplir à l'égard des sociétés qui nous emploient, pour certains d'entre nous, ou qui nous emploieront, ou à l'égard de l'humanité entière. Bien sûr, il y a la référence historique. Nous devons aussi étudier, parler des sociétés du passé, mais nous ne pouvons pas être complètement déconnectés des préoccupations du monde qui nous entoure. C'est ma conviction, mais je ne sais pas si... Peut-être que vous ne la partagez pas, mais c'est ma conviction profonde. Voilà.